Miaou, 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 miaou.
Le bar à...
Miaou.
Le bar à quoi?
Le bar à chat.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Le bar à chat. Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Miaou.
Cha-cha-cha.
Qu'est-ce qu'on dit?
Le bar à chat. L'émission chat. Heureuse
de Radio Saint-Afrique.
Chatounes, chatounets, bienvenue dans le bar à chat d'octobre. Donc une émission ce mois-ci en comité restreint. En effet, nos consoeurs, plusieurs de nos consoeurs sont retenus pour diverses raisons obscures ou non. On ne vous détaillera pas ça ici, vous ne saurez rien. Donc, chaussettes pour vous servir aujourd'hui à l'animation, accompagnée de Mémeille.
Bonjour. Oui, bonjour. en pleine réflexion.
Voilà, on est en live, ah oui, il faut le dire quand même, nous sommes en live, puisque nous avons décidé à partir de ce mois-ci de faire uniquement des barachats en live. Donc voilà, ça demande un petit peu de préparation et merci. Et comme on est tout un peu foutraque dans l'équipe, c'est forcément un petit peu compliqué. Mais on va apprendre, on va s'y faire. Et donc, une nouvelle recrue. Il y en aura sans doute d'autres dans l'année qui vont arriver. On a réussi à aller à la pêche aux recrues et en ramener quelques-unes, dont Manu. Bonjour Manu.
Bonsoir à tous et à toutes.
Contente d'être dans l'équipe du Barachat?
Je suis ravie. Je suis ravie d'avoir rejoint l'équipe. Et voilà, j'espère que ça va le faire.
Oui. Donc aujourd'hui, tu vas être là avec nous deux pour réagir un petit peu à nos papiers et t'exprimer. Tu as des choses à dire sur...
Tout à fait.
Sur l'émission. Puisque donc, pour ce mois, entre autres nouveautés du fait que nous soyons en live à partir du mois d'octobre, on a aussi décidé de fonctionner dorénavant sur des thématiques. Donc voilà, on s'est concerté, on a fait des petites réunions pour voir un petit peu quelle thématique pouvait nous plaire, vous plaire aussi. Mais bon, on pense d'abord à nous quand même. Et voilà, donc ce mois-ci, on inaugure en fait les thématiques qui vont durer pendant toute la saison du bar à chat. On espère que ça vous plaira. En tout cas, nous pour l'instant...
Nous, ça nous plaît.
Voilà, ça nous plaît pour le moment. Bon, eh bien, on peut y aller. Donc finalement, je ne vais pas passer la main puisque je vais commencer directement. Et puis, comme on dit ou comme on ne dit pas à la radio, sans transition. Alors ce matin, j'ai vu la tronche d'Éric Ciotti à la télé. Et je me suis dit que franchement, notre thématique du mois d'octobre tombait à point nommé. Vous allez la savoir bien évidemment. Invité sur France Info pour réagir, l'ami Ciotti sur les attaques de Marseille et de Vegas, bien sûr.
Évidemment.
Parce que là, en termes de diversité, sans blague, ils nous ressortent toujours les mêmes. Chacun est spécialiste sur son thème de prédilection. Pour le coup, Ciotti ne sait réagir que là-dessus, bien sûr, et sur l'ISF aussi. Bizarrement, c'est pas lui qu'on va aller chercher pour causer d'agroécologie, de la ressource en eau ou du droit au logement. Donc, à point nommé, je disais, pour vous parler ce mois-ci de notre thème, qui est la biodiversité politique. Mais, qu'est-ce? Allez, vous allez bien prendre quelques définitions dans les oreilles. La biodiversité, mot composé des mots bio, du grec bio, vie, et diversité, et la diversité de la vie sur Terre. La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. Cela recouvre l'ensemble des biens naturels et des formes de vie, ainsi que toutes les relations et interactions qui existent, d'une part entre les organismes vivants eux-mêmes, d'autre part entre ces organismes et leur milieu de vie. Nous autres humains, appartenant à une espèce, Homo sapiens, qui constitue l'un des fils de ce tissu. Bon, désolé, hein, je sais, mais fallait que je le mette comme ça me faisait beaucoup rire. C'est pas un hommage, hein, je préfère préciser tout de suite. Pourquoi cette chanson? Pour vous parler de l'autre définition qui est le mot politique. Politique, donc du grec politikos, de la cité, qui est la manière de diriger un état ou une cité. La politique recouvre tout ce qui a trait au gouvernement d'une communauté ou d'un état. L'art est la manière de gouverner, l'organisation des pouvoirs, la conduite des affaires publiques, les actions prévues ou mises en œuvre par une institution, une organisation, un parti, un État, en vue d'atteindre un objectif préalablement fixé. La politique, en son sens plus large, celui de civilité ou politikos, indique le cadre général dans lequel une société ou une population est gérée par son ou ses dirigeants. Alors pourquoi ce mot de biodiversité et non de diversité ? Mais parce que nous sommes des animaux, pardi. N'en déplaise aux créationnistes et autres évolutionno-sceptiques en tout genre. Donc, la biodiversité en politique, c'est le choix de notre thématique pour ce mois-ci. Puisqu'en France, s'il y a bien un domaine dans lequel on ne note pas une répartition équilibrée des individus, c'est bien la politique locale comme nationale. Côté femmes d'abord. Oui, oui, ça rit, parce que nous sommes toutes des petites dindes, moi j'assume, moi j'adore les dindes, donc il n'y a pas de souci de me comparer à une dinde, ou à une oie, ou... là c'était une oie plutôt. Côté femmes, donc, au 1er janvier 2017, en France, nous comptions 32,4 millions d'hommes et 34,5 millions de femmes, pour 66,9 millions de Français, donc 3,14% de femmes en plus. Tralala, girl power. Oui, mais... À la date du 1er janvier 2017, on dénombre 35 886 maires en France. Sur ces 35 886 élus, 84% sont des hommes et 15%, 16% on va dire, sont des femmes. Le département de l'Aveyron compte lui 304 maires, dont 88% d'hommes et 11,5% de femmes, bien en dessous de la moyenne nationale donc. Sur les 41 villes de plus de 100 000 habitants en France, seules 6 sont dirigées par des femmes depuis les dernières élections. À Paris, avec Anne Hidalgo, à Rennes, à Nantes, à Lille, à Aix-en-Provence et à Amiens. 3 femmes sont à la tête d'une des 13 régions de métropole et elles président moins d'un conseil départemental sur 10. Les intercommunalités, elles, constituent l'échelon local le moins paritaire, avec 92% d'hommes présidents, 80% de premiers vice-présidents et 66% de conseillers. Côté Sénat, on compte 29% de sénatrices, contre 25% en 2014. Il faudra attendre à peu près 2030 pour atteindre la parité. Représentées à quasi-égalité avec les hommes parmi les candidats au Sénat, selon le Haut Commissariat à l'égalité entre les femmes et les hommes, les femmes sont beaucoup plus rarement en tête de liste. L'Assemblée nationale, elle, comprend désormais 38% de femmes, en forte hausse par rapport à 2012 où ce taux était de 27%. À ce rythme de progression, la parité pourrait être atteinte lors des prochaines législatives, mais cela reste peu probable tant l'élection de 2017 aura été exceptionnelle. Pour se réconforter, n'oublions pas tout de même qu'il y a 20 ans encore, l'Assemblée nationale ne comptait que 10% de femmes et le Sénat 6%. Pêle-mêle, on retrouve également 42% de députées européennes, 48% de conseillères régionales, 50% de conseillères départementales. Dit comme ça, le bilan de la parité en politique paraît de moins en moins défavorable aux femmes. Oui, sauf que la parité en politique consiste surtout pour les hommes à céder la place aux femmes là où la loi les y oblige, c'est-à-dire pour les postes plus souvent secondaires. Même dans les assemblées où les femmes sont présentes quasiment au même niveau que les hommes, on ne les retrouve pas à leur tête. Plus on s'élève dans la hiérarchie du pouvoir, moins elles sont présentes. La répartition des délégations au sein de l'exécutif reste très stéréotypée. Aux femmes, les affaires sociales, aux hommes, les transports et le développement économique. Et inégalitaire. Les compétences les plus importantes symboliquement et budgétairement sont très majoritairement allouées aux hommes. Le pouvoir reste donc encore largement entre les mains des hommes. Cela dit, s'il s'agit de militer pour plus de femmes en politique, ce n'est pas, j'espère, pour que l'on se retrouve, avec plus de Claire au Petit, Nadine Morano, Isabelle Balkany, Christine Boutin, Valérie Pécresse et les Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen.
Il faut savoir qu'on a une recrudescence d'une nouvelle violence, qui est par exemple le vol des portables à l'arraché. Ça n'existait pas avant que les portables n'existent, voyez.
Oui, ça n'existait pas avant que les portables n'existent. Merci Nadine pour ce grand moment de philosophie. Donc voilà, nous avons parlé des femmes, mais n'oublions pas le reste. Côté catégorie sociale et origine, c'est encore pire.
As-tu saisi, mon pote, notre envie de révolte ?
J'ai envie de crier zut en flûte, crante en...
Chier !
Chier, ouais, justement. Les cadres supérieurs représentent 32% des conseillers régionaux, quand 1% seulement sont des ouvriers. Chez les députés, employés et ouvriers représentant près de la moitié de la population active française ne sont que 3% à l'Assemblée nationale. Les partis recrutent essentiellement parmi les diplômés. Pour être candidat, il faut appartenir au réseau du pouvoir et tisser des liens qui dépassent la sphère politique. Amis, relations de travail. Savoir et oser s'exprimer en public aussi. Il faut également pouvoir consacrer de longues heures à la politique au-delà de son temps de travail, pour s'investir dans les réunions où les enjeux de pouvoir se décident. Enfin, les salariés du privé sont très défavorisés. En cas d'échec après un premier mandat, rien ne garantit leur avenir professionnel. Et de fait, l'écart est considérable entre le débat suscité par l'absence des femmes au Parlement et celui inexistant sur la représentation des milieux populaires. Il n'existe aucun haut conseil à la parité sociale en France. Au niveau des origines, seules 4 mairies de grandes villes seulement sur 260, de plus de 30 000 habitants, sont dirigées par des Français issus des minorités visibles. Entre 2001 et 2008, selon une étude du Haut Conseil à l'intégration, le nombre de candidats issus de l'immigration extra-européenne ayant intégré les conseils municipaux des villes de plus de 9 000 habitants était passé de 1069 à 2343, soit 6,68% du total de ces élus, mais pour seulement 9 maires à l'arrivée. Auteur de Passion française, une enquête sur les descendants d'immigrés candidats aux législatives de 2012, Gilles Kepel a décrit une progression qui a commencé selon lui après les émeutes urbaines de 2005. Dans les banlieues, de nombreux jeunes avaient pris leur carte d'électeur pour faire barrage à Sarkozy et son Karcher, avant pour certains d'intégrer les listes municipales en 2008, à droite comme à gauche. Notamment parce que les maires sortants et les candidats en conquête voulaient avoir des relais dans les quartiers.
Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe.
Nadine, c'est la meilleure pourvoyeuse de jingle virgule. Incroyable.
Sacré Nadine.
Mais c'est précisément pour cette raison que de nombreux candidats de la diversité ont jeté l'éponge après une première expérience durant laquelle ils ont été, ou ont eu le sentiment d'être, cantonnés au statut d'arabe de service, de représentant des quartiers, au mieux d'adjoint à l'égalité ou à la vie associative. Quelque chose qui a à voir avec l'assignation identitaire, carburant au communautarisme davantage qu'au multiculturalisme.
Attendez, moi je suis née dans les banlieues.
Oui, non mais...
J'ai vécu jusqu'à 23 ans.
Si je suis née à Sarcelles avant de venir dans le
7e, moi je suis née au 8e. Donc les banlieues, voilà, je connais.
Mais
j'ai vu aussi les problèmes d'immigration dans les banlieues.
Oui, d'accord.
Alors, on ne peut pas dire le contraire.
Dites-moi, c'est la conséquence de quoi ce qui s'est passé dans les banlieues?
Mais parce qu'on les a tous mis dans les mêmes endroits, on les a ghettoisés. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés en situation irrégulière, qui sont arrivés qui n'avaient pas de boulot. Et là, des logements à vivre à 15 ans, les logements, des polygames et tout.
Des polygames et tout. Nadine se lâche. L'on a insisté ces dernières années à du marketing électoral également, via l'intégration dans les équipes des partis d'individus issus de ces minorités visibles. Alors là, la liste est très féminine. Je ne sais pas pourquoi il y a eu. Finalement, peut-être que ça paraît plus femme, plus doux d'intégrer une femme issue de minorités visibles. Ramayad, Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri, Fadela Amara et j'en passe. Parfois exhibés comme des symboles et des preuves de l'ouverture des 10 partis. C'est cependant à la base que la diversité doit avoir droit de cité pour devenir une réalité visible et durable. Mais cette diversité n'a actuellement pas le vent en poupe. Quand on voit que le simple fait de manger un couscous peut faire hurler certains. Cela pourrait durer au moins jusqu'à ce que les électeurs de la diversité votent en masse, enfin. Mirror, mirror on the wall, tell me mirror what is wrong. Can it be my daylight clothes or is it just my daylight soul? What I do ain't make believe, people say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself and I. It's just me, myself and I. It's just me, myself and I. It's just me, myself, 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 and I. Please, oh please, let Plug 2 be himself, not what you read or write.
Right is wrong when hype is written on the soul, they lie that. Style is surely our own thing, not the false disguise of shoulders. They lie solely from the soul, and this fact I can't deny. Strictly from the Dan called Stucky, and from me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states
black is black.
Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep on up with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. Nah. It's me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I.
Voilà, vous venez d'écouter De La Soul avec un titre qui ne pouvait pas mieux tomber pour les politiques. Il continue à causer après moi. Me, myself and I. Mémeille.
Oui, alors, puisque la biodiversité et la politique est le sujet du jour, eh bien, je vais vous parler de biodiversité et de psychologie politique. Je vais un petit peu reprendre, donc tu nous as fait une définition de la biodiversité, je vais reprendre un peu en développant.
Bien hein, sûr.
Voilà. Bon, alors, pour démarrer, nous faisons toujours mieux dans l'impensable. Donald Trump déclare tout haut qu'il n'en a rien à foutre du climat. Que seul compte l'emploi, entre guillemets, et le bien-être, toujours entre guillemets, des Nord-Américains. Ce qui a provoqué un tollé vertueux de récriminations, entre autres européennes. Mais ne nous y trompons pas, il ne fait que déclarer haut et fort ce que pensent tous ceux qui sont aux commandes de notre avenir et qui l'orientent imperturbablement vers le désastre. Même le Canada a protesté, eux qui sont les champions de l'extractivisme. C'est comme si cacher ce sac, je ne saurais voir, mais que j'aimerais bien peloter de temps en temps. Vous savez peut-être que l'Europe s'apprête à signer le CETA avec le Canada et s'apprête à signer le TAFTA avec les États-Unis. C'est peut-être déjà fait d'ailleurs, hein, on nous dit tellement rien de ce qui est essentiel. Et qu'est-ce qu'ils promettent ces accords? Continuer à piller la planète, mettre les populations à genoux. Et le climat, on s'en tape. Mais au fait, comment en est-on arrivé là? Ce n'était peut-être pas fatal. On peut dire qu'aujourd'hui, la société mondialisée est menée par une poignée, même pas grosse au regard des milliards d'êtres humains qu'il y a sur la planète. Une poignée donc de dirigeants, qu'ils soient politiques ou barons financiers, auxquels se mêlent les mafias. On peut se demander pourquoi.
Toujours la même équipe, on les changera pas. De Germain à la Conti, ils seront toujours là. Ils nous ont vendu la fin de l'histoire. Ils nous ont vendu la fin de l'histoire. Toujours la même équipe, on les changera pas. De Germain à la Conti, ils seront toujours là. Yeah.
Revenons sur la biodiversité. Que nous dit la nature à la logique de laquelle nous ne pourrons pas échapper. La nature, au cours de millions d'années, s'est ingéniée à mettre en place des écosystèmes, c'est-à-dire construire des communautés d'êtres vivants qui vivent les uns des autres dans un espace donné et savent s'adapter aux changements, pour peu qu'il y ait un grand nombre d'espèces différentes, plantes et animaux, ensemble, en interaction, car il n'y a pas de vie sans interaction, c'est-à-dire sans symbiose. Le meilleur exemple de communauté, de système qui fonctionne grâce à la grande variété de ses composantes, c'est le sol. On affirme couramment que 95% des espèces vivent dans le sol. Dans cet écosystème, chaque organisme a son rôle à jouer, chacun se nourrissant grâce à l'activité des autres. Chaque espèce a un rôle différent et complémentaire dans la fertilisation et le brassage de la terre. Tout ce travail pour permettre aux micro-organismes de fabriquer de quoi nourrir les plantes en permettant de faire entrer dans le cycle de la vie les minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium ainsi que les oligo-éléments dont nous allons nous nourrir et qui nous sont indispensables à nous humains. Et ce travail se fait grâce à un échange permanent d'informations entre les membres de la communauté. Connaissez-vous la stratégie du haricot de Lima ? Sous l'attaque de chenilles, les plantes de haricots produisent un exsudat à la base des feuilles qui attire un insecte qui va pondre dans les chenilles et ainsi compromettre la venue du papillon et donc arrête la multiplication du parasite. En même temps, les plantes attaquées par les chenilles émettent un produit volatile qui va prévenir les plants voisins, qui vont se mettre à produire un exsudat avant même l'apparition des chenilles. On dit même que les plants peuvent prévenir en priorité les plants issus de graines du même pied.
T'es une espèce de cheval de course avec des œillères et un mors dressé pour gravir des podiums. T'es un vrai mec, presque un surhomme. Depuis 4 ans que tu t'entraînes pour que résonne dans tes oreilles la Marseillaise sous la baguette d'un chef chinois, ça se respecte. Tu feras tout pour arriver là, faire oublier Sergueï Bouka. Et quand l'élan enfin t'entraîne 6 mètres au-dessus de Tiananmen, à cette hauteur la peine capitale, on doit trouver cela banal. À toi le bronze, l'argent et l'or, et peu importe l'envers du décor. T'es une espèce de tête pleine d'eau, édulcorée jusqu'aux abdos, la mèche rebelle, la mémoire courte, pour doper les indices d'écoute. Depuis 4 ans que tu l'attends, chez tes sponsors ils seront contents de décliner en 3 couleurs la tenue du parfait branleur. Tu feras tout pour une fois sur la piste, faire oublier Carl Lewis. Et quand l'élan enfin t'entraîne 10 secondes au loin de Tiananmen, à cette vitesse c'est bien normal, on évite un peu mieux les balles. À toi le bronze, l'argent et l'or, et peu importe l'envers du décor.
Alors, face à cette diversité, cette coopération, qu'est-ce que nous trouvons dans notre écosystème que nous appelons société ? Quels sont ces individus qui prennent les commandes du fonctionnement de notre structure ? Eh bien, il existe une discipline née aux USA, aux environs de 1978, qui étudie la personnalité de ceux qui nous gouvernent. Ça s'appelle la psychologie politique. Et il existe en France, plus récemment, une association française de psychologie politique qui s'est définie plein d'axes de travail autour de ce sujet, comme de quel type psychologique sont nos gouvernants, quelles conséquences sur leur comportement public. Un psychanalyste en France, Jean-Pierre Friedman, s'est penché sur la question et un livre, « C'est fou qui nous gouverne » de Pascal de Sutter, psychologue à l'université de Louvain, explique clairement que les hommes et les femmes d'État ont des caractéristiques psychologiques particulières qui tendent justement à un manque certain de diversité. L'homme au pouvoir ne gouverne pas seulement avec les principes et les intérêts de son parti, de sa classe dirigeante. Il gouverne aussi avec son caractère individuel, sa personnalité, ses passions, ses perspectives personnelles. Bien des choses, donc, dépendent de sa psychologie. Mégalomane et narcissique, les hommes politiques ou les grands patrons n'auraient qu'un seul objectif, conquérir le pouvoir et l'éternité. Jusqu'à en oublier leurs convictions. Ils n'ont qu'une seule conviction, parvenir au pouvoir, mais pour se donner bonne conscience, ils se choisissent des causes. Le pouvoir est une drogue qui rend fou quiconque y goûte, confiait François Mitterrand. Jean-Pierre Friedman nous dit, pour les hommes politiques ou dirigeants de grandes entreprises, les hommes de pouvoir, deux constantes reviennent. La première concerne leur éducation. Presque tous ont vécu une relation quasi fusionnelle avec une mère, hyper protectrice et gratifiante, et un rapport conflictuel, hostile, méprisant ou simplement distant avec leur père. C'est dans ce cadre familial que ces hommes trouvent le moteur de leur course au pouvoir. De leur relation à la mère, ils tirent une confiance et une assurance qui gonflent leur narcissisme. Et de leur relation au père, une volonté mégalomaniaque de prouver de quoi ils sont capables. La seconde constante tient au rapport que ces hommes ont avec le pouvoir. Ils l'identifient à leur vie. Il leur apparaît comme un gage d'éternité. C'est pour cela qu'ils veulent le garder à tout prix. Ils ne peuvent accepter l'idée de leur mort, ni que le monde puisse leur survivre. C'est par exemple Mitterrand qui laissait se développer les ambitions d'un Fabius ou d'un Rocard, mais qui s'arrangeait finalement toujours pour les scier. En cela, ils agissent un peu comme des enfants qui sont persuadés que le monde leur obéit. La vision du pouvoir de ces hommes est avant tout une preuve d'immaturité. Le pouvoir est une maladie mentale, dit-il, Jean-Pierre Friedman. Rien de moins. Comme disait La Fontaine, ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient atteints. La pathologie du pouvoir porte un nom. Elle s'appelle « perversion narcissique ». Et j'en rajoute une couche. L'addiction sexuelle est une pathologie qui affecterait de nombreux hommes puissants. Leur volonté d'acquérir toujours davantage de pouvoir n'a souvent d'égal que leur désir de conquérir toujours davantage de femmes. Ce que je veux, quand je veux, j'ai tous les droits. Tel serait, selon des spécialistes du comportement sexuel, la logique de beaucoup d'hommes de pouvoir. Mais narcissique, hein, on a parlé de narcissisme. Le narcissisme n'est pas forcément un gros mot. Il y a un narcissisme sain. L'individu possédant un narcissisme sain s'aime assez pour mener à bien ses projets et interagir avec ses proches et son environnement de façon juste et mesurée. Il le doit à l'amour de soi, à l'image de soi et à la confiance en soi, qu'ont su lui inculquer son entourage. Possédant une bonne estime de soi, il lui sera facile d'affronter les vicissitudes de la vie sans développer de sentiments de frustration ou de toute-puissance. Il saura se remettre en cause et rebondir. Il est rare qu'un homme qui réussit dans ses affaires, dans son travail et dont la vie privée est heureuse, éprouve le besoin de faire de la politique. Les gens heureux ne s'agitent pas, mais ils agissent. Ils n'ont pas d'histoire, mais ils font l'histoire plus efficacement que les agités.
Facile, facile de se faire tout petit quand on nous a appris à s'étaler. Savoir s'écouter pour mieux chercher et trouver les alternatives pour encore plus d'équité. Tu vas finir par y laisser des plumes. On se pose, on voit un tir
parler du narcissisme sain, mais tout autre est l'individu au narcissisme pathologique. Nos politiques, donc, ces narcissiques pervers. En voici quelques caractéristiques. Vous reconnaîtrez peut-être quelques-uns de nos dirigeants. Sens grandiose de son importance ou de son unicité, exagération de ses réalisations personnelles et de ses talents. Inclination à l'ostentation, recherche constante d'attention et d'admiration. Froide indifférence envers les autres, ou de vifs sentiments de rage, d'infériorité, de honte, d'humiliation ou de vide lorsqu'il doit faire face à la critique ou à l'indifférence des autres. Certitude de mériter des privilèges. Exploitation des autres. Abus des autres au service de ses propres désirs et de son épanouissement personnel. Mépris pour le respect de l'intégrité et des droits d'autrui. Manque d'empathie. Incapacité à prendre conscience de l'existence des émotions et des sentiments des autres. Et du côté des femmes, pas grand-chose n'est dit là-dessus. Jean-Pierre Friedman juge que le profil psychologique est le même. Le rapport au pouvoir reste le même et il explique que, en tout être humain, il y a une part masculine et une part féminine. La part féminine a ses propres valeurs qui sont l'amour, la tolérance, la compréhension. De l'autre côté, il y a les valeurs masculines du courage, de la puissance. Les femmes qui évoluent dans la sphère du pouvoir s'appuieraient d'abord sur la part masculine de leur personnalité. On n'a donc même pas cette possible diversité. J'ai recherché ce qu'on pouvait dire de la psychologie d'une Margaret Thatcher ou d'Angela Merkel. Je n'ai rien trouvé d'aussi précis sur les profils psychologiques de ces femmes. Ça reste à creuser. On en reparlera, je pense. Les individus atteints du trouble de la personnalité narcissique sont portés à conquérir le pouvoir ou des postes à haute responsabilité. Pourtant, rares sont les études qui mettent cette pathologie en lien avec les événements marquants de l'histoire et les crises qu'elle a traversées. Les théories politiques sont bien loin d'expliquer toute la vie publique réelle, car justement, elles ne prennent pas en compte la psychologie des maîtres du monde. Les comportements des hommes au cours des révolutions, des crises politiques ou même des élections ne sont pas les fruits de décisions délibérées et rationnellement motivées, mais relèvent d'un transfert des affections et des haines privées sur des objets politiques. Les passions refoulées dans la vie privée, trouvant dans la vie publique l'occasion de se manifester et se satisfaire. Et les chercheurs en psychologie politique travaillent sur ces questions. Qu'arrive-t-il lorsqu'on joue au jeu de l'autorité et du pouvoir sans avoir résolu au préalable nos propres conflits intrapsychiques, seule condition au développement d'un narcissisme sain? Quel effet peuvent avoir sur l'activité d'une organisation les personnes ayant une faible conscience de soi et des idées de puissance et de grandeur irréalistes? Qu'advient-il des organisations pilotées par de tels individus? Comme vous voyez, des questions qui devraient nous interpeller puisque nous en subissons les conséquences. Et toujours selon les psychologues politiques, nous vivons actuellement une mondialisation de la perversion narcissique. Bon courage pour nous!
Colporte, crapote le même air, survole tranquille les centrales nucléaires.
60 millions de pigeons chargés en diesel et en plomb s'agitent, s'excitent, profitent du bon air, consomment en masse les miettes de la terre.
Je ne sais plus quoi chanter, maman. sinon le même air de rien qui fait. Nananananana. 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 Nananananana.
60 millions de moutons en route vers la même direction. Papote, chipote, radote le même air. Piétine, tranquille, le siècle des lumières. 60 millions de moutons marchant aux ordres sans condition. Frémissent, pâlissent, se glissent des pieds sous terre. Ne bêlent plus sous le joug de la colère. Je ne sais plus quoi chanter, maman, sinon le même air de rien qui fait. Nananananana. 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 Nananananana.
Alors voici quelques exemples d'hommes politiques au sommet du pouvoir. Nous passons sur Jacques Chirac, qui, comme Winston Churchill, était dépressif, traité au sel de lithium pour ses troubles bipolaires. Passons aussi sur Mitterrand, narcissique mégalomane, et que dire d'Hitler ou de Staline. Entre parenthèses, on disait de Staline qu'il était atteint de paranoïa. Mais en fait, non. C'est un exemple type de narcissique pervers qui déclarait, par exemple, « Mon plaisir le plus grand » et de choisir une victime, de préparer des plans minutieusement, d'assouvir une vengeance implacable et ensuite d'aller me coucher. Il n'est rien de plus doux au monde. C'est comme ça qu'il a fini par avoir la peau de Trotsky. Depuis, des personnalités pour le moins particulières sont venues occuper le devant de la scène. Bon, Nicolas Sarkozy est un bon sujet psy. De nombreuses études lui ont été consacrées. Sarkozy, selon Pascal de Sutter, est une personnalité ambitieuse dominante avec une tendance narcissique compensatoire qui a fondamentalement des complexes sous-jacents. Même après avoir été élu, il doit prouver à tout le monde qu'il peut faire des choses extraordinaires. Il doit toujours en faire trop parce qu'il a besoin d'être aimé, reconnu, admiré. Il y a le flamboyant Trump qui a l'air de vouloir battre tout le monde dans la démesure de ses troubles psychologiques. De nombreux psychiatres américains de renommée mondiale dénoncent le caractère narcissique malveillant, on peut dire pervers, de Donald Trump. Une pétition circule pour demander la destitution de Donald Trump en vertu d'un article de la Constitution qui prévoit le remplacement du président par le vice-président en cas d'incapacité à exercer les pouvoirs et remplir les devoirs de sa charge. Ce que reprochent les psychiatres à Trump, si de nombreuses personnes font preuve de narcissisme, notamment à la tête de l'État américain, Donald Trump est un cas plus dangereux. Car ce syndrome, le narcissisme pervers, se caractérise par deux autres composantes, un trouble de la personnalité antisociale et un caractère paranoïaque. Ce sont les personnes qui ignorent sciemment le fait qu'ils violent les droits d'autrui, qui mentent à répétition. Chez lui, nous dit le docteur John Gartner, professeur de psychiatrie à l'université Johns Hopkins,
On est en train de perdre mes mails.
Ah là 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 là. Toute personne qui n'est pas d'accord avec lui est soupçonnée de complot. Et il croit en toutes sortes de théories complètement folles. La façon dont il s'attaque aux sciences ou à la presse relève de la paranoïa. À force de créer peu à peu votre propre réalité, vous êtes prêt à tout pour combattre ce que vous percevez comme des ennemis diaboliques. C'est précisément ce qu'a fait Hitler avec les Juifs. Partant du principe qu'ils étaient des ennemis diaboliques, la seule chose à faire, la solution la plus logique, c'était leur extermination. Fin de citation. Mais chez nous, nous avons Macron. Ça n'est pas mal non plus. Certes, dit un psy français là, de psychiatre à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, si on devait destituer toutes les personnes au pouvoir présentant des troubles de la personnalité narcissique, il ne resterait plus grand monde pour gouverner. Cependant, il y a Anne Fulda qui s'est penchée sur Emmanuel Macron dans un bouquin qui s'appelle « Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait ». Depuis qu'il est petit, Macron veut toujours convaincre, plaire, retourner ceux qui, a priori, ne l'aiment pas. Le besoin d'être admiré, de recueillir l'assentiment de ceux qu'il côtoie, et plus particulièrement de ses aînés, de ceux qui détiennent un pouvoir qu'il n'a pas, le pouvoir du savoir. Le pouvoir intellectuel, puis économique et politique, il veut tous les conquérir, les embrasser, pour être reconnu, adulé, admiré, pour obtenir cette petite dose d'adrénaline que l'on trouve en politique. Son besoin de séduction, asexué, il ne s'agit pas de conquérir, de conquête féminine, correspond à une sorte de réassurance narcissique perpétuelle, à un besoin pathologique de séduire, de convaincre. D'après son père, Macron séduirait une chaise. À se demander si Emmanuel Macron ne fait pas tout pour retrouver toujours et encore le regard de Manette, sa grand-mère adorée. Ce regard qui l'a porté, l'a approuvé et émancipé. D'ailleurs, la rupture entre Hollande et Macron date du jour où Macron a trouvé que Hollande avait montré une indifférence, une froide indifférence à la mort de cette Manette. Et nous avons un autre, un psychiatre italien. Alors là, j'ai laissé mes deux feuilles suivantes sur, sur l'imprimante, donc je vais essayer de vous dire à peu près, mais rapidement. Hein. Donc il y a un psychiatre italien qui a étudié le cas d'Emmanuel Macron en regardant les vidéos, en prenant ses textes pendant sa campagne, sa biographie, etc. Et pour lui, eh bien, Macron est un psychopathe, carrément.
Ça, on le savait déjà.
Et cette... Oui, alors tout le monde n'est pas d'accord quand même. Il a été controversé, ce psychiatre italien qui en plus fait partie de la droite dure de l'Italie. Mais il prétend donc que c'est son viol à 15 ans par sa professeure de théâtre qui avait 39 ans.
Brigitte.
Qui a en fait déclenché parce que à 15 ans, donc, il a eu ses relations avec cette femme et ça a été un peu étouffé dans la famille. Il a fallu justifier un petit peu sans quoi il s'est retrouvé marié, etc., etc. Et en ayant donc. Avec une acceptation de la famille. Donc, il y a eu un tabou qui a été brisé et un dépassement de limite. Et ce dépassement de limite qui s'est produit à l'adolescence, pour considérer qu'un 15 ans est encore adolescent, a en grande partie fait que...
Construit aujourd'hui.
Ce qu'est Macron aujourd'hui. Bon, ouais. On peut... C'est... Mais enfin, il décrit tous les symptômes donc, de cette pathologie. Hein, ce psychopathe qui a toujours besoin, qui se fout absolument des autres, qui n'a qu'un seul souci, c'est de se faire valoir et d'être de pouvoir. Et que donc il est prêt à n'importe quoi pour et surtout il n'aime pas être contredit, il n'aime pas être incompris. Et donc il en rajoute et il n'a jamais de remords. Il paraît que c'est une particularité des psychopathes.
Ça fait quand même vachement flipper ce que tu racontes parce qu'on savait déjà que il était pas mal vu ce qu'il nous gratine en ce moment. Mais
voilà. Donc et alors bon, De Sutter et Friedman, eux disent que le monde est actuellement dirigé par des narcissiques pervers.
Psychopathes.
Des psychopathes dont on se demande...
Ils vont tous mourir.
Dont on se demande... Alors si la société ne réagit pas, si les autres ne réagissent pas, on va... Pour eux, c'est encore une des raisons pour lesquelles on peut dire on va à la catastrophe. Mmh. Mais alors, dans le couple élu-électeur, il y a les électeurs.
Oui.
Et alors, donc, je ne sais plus si c'est Friedman ou Suter qui dit, mais les électeurs, ils se fient en fait, au langage, à l'allure, à tout ce qui est extérieur de l'élu. Et donc, ils sont aussi fous, les électeurs, sont aussi fous que les élus. Ouais. Et que donc, voilà, il faut faire gaffe quand on vote, de ne pas se laisser embobiner par la propagande, par tout ce qu'on fait autour de ces campagnes électorales qui sont de plus en plus de la pub, quoi.
Ah oui, tout
une mise en scène.
Tout à fait.
Et voilà, donc j'en ai fini ouais. de...
En même temps...
Ah oui, alors, c'est pour dire aussi que, comme on peut le voir, donc cette diversité qui est biologiquement absolument nécessaire pour la survie d'un système, eh ben, elle est complètement nulle, quoi. Il n'y a pas de biodiversité. Inexistante.
C'est ça.
Et donc, raison de plus pour penser qu'il est temps qu'on se... D'ailleurs, c'est une des conclusions, il faut remuer, quoi. Faut réagir.
Faut remuer, mais ce que tu disais par rapport aux pervers narcissiques et tout, ils ont cette volonté, cette soif de reconnaissance, cette mégalomanie, cette rage, en fait. Donc forcément, ils sont toujours les premiers sur les dents pour conquérir le pouvoir. Donc, par rapport à quelqu'un qui serait intéressé pour se lancer en politique, qui est là, ouais, je vais y aller... gentillet, tranquillement, et quelqu'un qui défonce des portes, bon bah, c'est pour ça qu'on se retrouve à chaque fois.
C'est peut-être le système, c'est justement, il faudrait changer la constitution, ou changer le système d'élection, de considération, de la façon dont on considère la politique, dont on considère comment on doit être, comment on doit survivre dans un ensemble, dans une société. Bon, alors voilà, hein, ça remet en... Ça remet en question beaucoup de choses, mais c'est vrai que notre démocratie, d'ailleurs, il ne parle plus de démocratie, il parle de théocratie, nous ne sommes plus dans une démocratie. Alors, il faut renverser tout, quoi.
Révolution.
Révolution.
Une poussinette musicale pour vous laisser souffler. On va revenir un petit peu sur ce dont on parle depuis le début.
Tout à fait.
Notamment, vu que Manu est là aussi.
Ouais.
Pouvoir réagir et...
Et justement, moi, tout à l'heure, quand je t'entendais parler de... qu'il y avait un lien entre le politique et la perversion sexuelle, ça m'a rappelé quelqu'un. Je ne sais pas si vous connaissez les filles. Monsieur Baupin.
Ouais.
Denis Baupin, voilà, qui fait partie d'Europe Écologie Les Verts. Si je dis pas de bêtises, il est sénateur, député, peut-être. Enfin bref, il a du pouvoir.
Député, je crois. Il n'est pas sénateur, il est député.
Il est député.
À vérifier.
À la recherche de pouvoir, non. Et avec du pouvoir.
À la recherche de pouvoir. Et vous savez un peu ce qu'il a fait, pourquoi on a un peu entendu parler de lui récemment?
Il a agressé sexuellement pas mal de nanas.
C'est ça. Il a à sa charge, je crois, près d'une dizaine de plaintes, en fait, venant de femmes, que ce soit pour agression physique ou verbale.
Autant sur des politiques que des assistantes, non ?
Voilà, c'est ça. Donc, ça me laisse un peu sans voix, parce que on entend souvent parler de sexisme ou de machisme en politique, mais là, c'est quand même des faits qui sont graves. C'est des agressions et c'est très bien que les femmes aient osé s'exprimer et en parler parce que j'imagine que ça doit quand même être un sujet assez tabou en politique. Et il y a tout de même des personnes voilà, qui ont osé parler et ça c'est déjà énorme.
Oui, le psy parle d'addiction sexuelle pour les politiques. Oui. Hein. Vraiment d'addiction.
Ça rejoint
et d'ailleurs,
ce
qui s'est passé avec... comment il s'appelait, là, déjà
Lequel, il y en a plein.
Le FMI, là.
Trauss-Kahn.
C'est manifestement qu'il ne pouvait pas faire autrement. Hein, parce que il a complètement bousillé sa vie politique.
C'est des pulsions. Hein.
Et une pulsion dans laquelle il n'a pas pu résister. Quoi. Il ne pouvait pas résister. Donc... Voilà, mais c'est vraiment une addiction, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et donc d'assez répandu. Alors, les psys expliquent ça en disant bon, le besoin de pouvoir, hein, le besoin de alors, sur les femmes, alors encore plus, hein, qu'une femme ne peut résister à au mec là, moi je suis le plus beau, je suis le meilleur, le plus bon, voilà, on peut pas me résister, c'est pas possible. Mais alors parce que ils ont une vie trépidante, hein, et puis en général leur vie personnelle est inexistante, hein, ils sont toujours par mons et par vous, ils ont pas de soutien, de tendresse, entourés d'amour, etc., etc.
On va pas les plaindre.
Non, on va pas les plaindre, ils le veulent. Et donc tout ça, ils expliquent, les psys expliquent que ça accentue ce phénomène de besoin de faire des conquêtes féminines.
Ouais. D'ailleurs, elle en est où cette affaire de Denis Baupin là ?
Alors,
donc, la régie nous a informé qu'il était bien député.
Député, d'accord.
Moi, j'ai pas suivi moi. Enfin, ces derniers temps, on n'a pas eu de retour là-dessus. Est-ce qu'il a eu une condamnation, quelque chose ?
Alors, de ce que j'ai suivi, il peut pas être condamné pour pas mal de plaintes parce qu'en fait, il y a prescription. C'est des faits qui ont eu lieu. Voilà, c'est des faits qui ont eu lieu il y a plusieurs années, donc il est protégé par ça. Et je vous avouerai que je ne sais pas non plus ce qu'il en est au niveau des autres. Mais il me semble qu'il y a un jugement qui est quand même comment on appelle ça, qui est en instance de se faire au moins pour une ou deux femmes.
Mais à l'époque où cette affaire était sortie, là, la parole s'était un petit peu libérée, notamment au niveau des assistantes parlementaires, parce que elles prennent cher, les nanas en général. Les femmes politiques, déjà, c'est le cas. Ouais. Mais alors, les assistantes parlementaires, forcément, on va les respecter encore moins qu'une femme politique qui soit dans un hémicycle. Et elles avaient lancé, ça existe toujours d'ailleurs, sur Internet, un site Internet où ça doit être parole, je ne sais plus comment ça s'appelle, parole d'assistante parlementaire, où elles listent un petit peu toutes les réflexions quotidiennes qu'elles peuvent avoir, et rien que d'aller y jeter un œil, c'est glaçant, quoi. Au quotidien, des choses qui, eux, leur paraissent totalement normales, enfin, banales, c'est du matraquage, quoi,
Alors, il y a quelque chose qui... Alors, les psychologues, là, et autres, même, je crois qu'il y a Ramayad qui avait demandé ça, un prétendant au pouvoir, qu'on lui fasse un profil psychologique.
Une vasectomie, pardon.
Oui, ça pourrait aussi.
Pardon.
Non, mais ça ne changerait rien. Mais ça ne changerait rien, la vasectomie, malheureusement. Ça ne changerait rien.
Donc, qu'on lui fasse
une
quoi?
Une castration.
Qu'on
carrément.
Lui fasse quoi?
Eh bien, un profil psychologique pour vérifier qu'ils ne sont pas pathologiques, qu'ils n'ont pas un narcissisme trop développé, enfin trop pervers, quoi.
Okay.
Et ça, voilà. Alors, il faudrait. On n'est pas à la veille d'obtenir que tous les élus soient soumis à un profilage, un profileur. Ce sont des profileurs, on les appelle des profileurs politiques, pour s'assurer qu'on ne va pas à la catastrophe, quoi. Alors, peut-être qu'il n'y aura plus d'élus. Peut-être que... Alors, il peut se passer deux choses. C'est qu'il n'y aura plus de prétendants, puisque tous les prétendants ont cette tendance narcissique gonflée. Ou alors, ça pourra peut-être permettre l'émergence de gens normaux.
Moi, j'ai une autre option. Parce qu'en préparant le sujet biodiversité politique, je voulais faire un parallèle avec la biodiversité tout court. Et comme on est en train d'observer une féminisation du monde, que ce soit du monde animal, avec tous les œstrogènes, toutes les pilules qu'on relargue dans le milieu, je pense que d'ici quelques années, la population entière sera uniquement féminine, un peu comme dans Jurassic Park. On fera de la parthénogénèse, du coup, plus trop de problèmes. On peut toujours avoir des connasses en politique.
Peut-être qu'il faudrait justement creuser cette histoire des profils psychologiques des femmes au pouvoir.
Oui, oui.
Parce que ce serait intéressant de voir s'il y a quand même
une différence. Elles ne sont pas beaucoup plus tendres.
Ouais. Alors, est-ce qu'elles sont sexuellement obsédées? Ça, c'est intéressant
à savoir. Nous allons mener l'enquête. Bon, très bien. Bon, on arrive à peu près au bout de cette émission. Première émission à thème. On espère que ça vous a plu, cher auditeur.
Moi, ça m'a beaucoup plu, en tout cas. Voilà.
Alors, du coup, le mois prochain, mois de novembre, on ne s'est pas encore tout à fait décidé. On a listé tout un tas de thématiques. Donc, on ne va pas vous la dire tout de suite. On préfère vous faire languir et puis vous découvrirez ça. Donc, a priori, on sera plus nombreuses autour de la table. Surtout si le thème est hautement intéressant. Haute, H-O-T.
Attention, c'est un indice.
Donc, nous verrons bien. Donc voilà, après, ben, pour les infos, maintenant, a priori, on est en live tous les premiers mardis du mois, à 18h.
Ouais.
Et la rediff, alors après, je sais pas, les techos, si... plus tard, oui, ils savent pas eux-mêmes.
Plus tard.
On verra bien. Ah, attention, ils prennent la grille.
Attention, on prend la grille. Eh bien, la rediff, ça va être le samedi... non, il y en a une autre avant. Demain, donc les mercredis qui suivent à 14h et le samedi à 16h.
D'accord,
voilà.
Très bien. Merci
pour
la
votre
technique.
Gouverne.
Donc, bah, nous remercions Clément pour la technique, justement, et Tony en auditeur assidu. Merci les gars.
Merci.
Merci
ouais.
Les filles.
Merci les filles.
Et puis, bah, bisous aux chattes absentes qu'on espère retrouver très vite aussi. Et puis, bah, bisous ouais. À vous les auditeurs. Essayez d'éviter la perversion narcissique.
Oui.
Tu peux dire hein
non, on pourra vous donner des conseils si vous voulez. Dites-nous, dites-nous.
Je crois que maman est prête à faire des ateliers là. À la prochaine, merci.
Oh, j'ai cru voir un roman.
Chalor.
Le bar à... Le bar à quoi?
Le bar à chatte.
Le talk chat de Radio Saint-Afrique.
C'est tout à fait chat.
Miaou.
Le bar à chat.
Nouvelle émission féline de Radio Saint-Afrique.
Miaou.
Miaou. Cha-cha-cha.